Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Bonjour Michel,
indigène,
bonjour à tout le monde.
Bonjour Alain.
Bonjour.
Indigène, c'est parti sur les 90.6 pour une demi-heure de musique du monde. L'intitulé de l'émission, c'était l'Eurovision de l'Europe de l'Atlantique à l'oral. C'est une émission qu'on avait diffusée au printemps de l'année dernière, qu'on va revisiter. On va partir de l'Islande pour aller en Russie.
On est d'accord.
Ça te convient ?
Bon. On est d'accord.
On va partir de l'Islande avec un groupe qui n'est pas connu en France, Klati, qui va nous interpréter Fravelungur.
Avec l'accent.
L'accent, il n'y est pas forcément, mais écoutez, ça va vous faire plaisir.
Alors, on va se réchauffer là-bas.
L'Angleterre, on ne peut pas penser à certains groupes de rock mythiques, par exemple Genesis. Si tu nous parlais de Peter Gabriel avec Phil Collins, il va nous interpréter Not One of Us, mais juste une petite présentation, ça nous fera du bien.
Quelques mots sur donc Peter Gabriel. Peter Brian Gabriel, qui est né à Shoban, dans le Surrey, en Angleterre, qui a grandi dans une famille de la classe moyenne, à Coxhill, un manoir victorien situé sur Deepool Farm, juste à l'extérieur de Shoban, avec un père ingénieur électricien, une mère Irène Allen, qui appartient à une famille de musiciens, un arrière-grand-oncle, Sir Thomas Gabriel, premier baronnet, qui était Lord Maire de Londres à la fin du 19e siècle. Il fréquente très jeune Gable House, une école primaire privée à Woking, et puis une école préparatoire St. Andrew's Boys à Orzel, également dans le Surrey. À 10 ans, il achète son premier instrument de musique, c'est un tam-tam. Il se fait remarquer lors de ses premières influences avec des rythmes qui ont joué un rôle assez important. À 12 ans, il écrit sa première chanson. Précoce donc, sa première chanson s'appelle Sammy the Slug, et puis il utilise l'argent de ses cours des cours qu'il donne d'ailleurs pour acheter le premier album des Beatles, Please Please Me. En septembre 63, il entre à Charterhouse, une école publique. Il est passionné de batterie, comme on le sait. Il rêve de devenir batteur et il deviendra donc auteur, compositeur, interprète. En 65, il forme le groupe Garden Wall avec ses amis de l'école, Tony Banks au piano et Chris Stewart à la batterie. Et puis en 67, après la dissolution de ce groupe, ils sont invités par leurs camarades Anthony Phillips et Mick Rutherford à travailler sur une bande démo de chansons. Ils écrivent ensemble She's Beautiful, leur première collaboration. Et ils se mettent d'accord ensuite sur la suggestion de créer un nouveau groupe qui s'appellera Genesis. Et après que King propose de s'en tenir à une pop plus simple, Gabriel et Banks écrivent The Silent Sun, comme un pastiche des Bee Gees d'ailleurs, un des groupes préférés du King. Et ce titre deviendra le premier single de Genesis, sorti en 1968, inclus sur le premier album studio du groupe qui s'appelait From Genesis to Revelation, qui voit Gabriel jouer de la flûte et Chris Stewart remplacé par John Silver. En 70, deuxième album Trespass. 71, le guitariste Steve Hackett se joint au groupe. Et puis, ils font une carrière solo à partir des années 75, où Peter Gabriel souhaite suivre son propre cheminement artistique. Il sort des singles, un album, The Lamb Lies Down on Broadway. Et il connaît divers succès commerciaux. Il s'intéressera à la world music. Et puis, il sera investi toujours dans la cause des droits de l'homme en participant pendant une tournée mondiale d'Amnesty International avec la fameuse chanson Biko, présente sur son troisième album où il rend hommage à Steve Biko. Il participera à l'album Sun City contre l'apartheid, à l'initiative de Stephen Van Zandt. Il prend conscience avec l'affaire Rodney King du rôle de l'image dans cette lutte. Il se lancera donc la Witness Organization. Il devient ensuite acteur. Il jouera dans des films à sketch. Il interprétera Imagine de John Lennon lors de l'ouverture des JO d'hiver de 2006 à Turin. Il sera désigné en 2006 hors l'homme de la paix lors d'un sommet des lauréats des prix Nobel. En 2007, à l'initiative du milliardaire Richard Branson et de Peter Gabriel, Nelson Mandela, Graça Machel et Desmond Tutu convoquent une assemblée de dirigeants influents du monde entier qui veulent contribuer à l'aide de leur expérience à résoudre les problèmes les plus importants de la planète. Et Desmond Tutu, président du Conseil, et ses membres fondateurs incluront d'autres grands de la planète dans cette lutte, où Gabriel participera d'ailleurs avec David Rudd et Richard Evans à la BO du film Sea Monsters du National Geographic. Début 2007, il produira un nouvel album tout seul et il s'engagera jusqu'en 2013 où il signera avec d'autres une pétition lancée par Free pour le Tibet, donc pour la Free Tibet Campaign, avec une ministre chinoise. Il signera au même titre que Roger Waters et Ken Loach une tribune de soutien au mouvement écolo, le soulèvement de la Terre, accusé d'ailleurs d'éco-terrorisme et menacé de dissolution. On le sait récemment par le ministère de l'Intérieur français et son ministre Gérald Darmanin. Côté vie privée, il aura épousé Gilmore en 1971, dont ils auront deux filles. Et puis, il vivra ensuite avec l'actrice Rosanna Arquette à la fin des années 1980. Il épousera Mabel Flynn le 9 juin 2022. Ils vivront à Londres avec leurs deux enfants, Isaac Ralph et Luc, Peter Gabriel. Et enfin, toujours dans sa vie privée, végétarien. Voilà quelques noms d'albums les plus connus, From Genesis to Revelations, Trespass, Nursery Crime, Foxtrot, Genesis Live, Celine England, et puis The Lamb Lies Down on Broadway. Je vous ai cité uniquement les titres de Genesis.
Alors là, effectivement, il est accompagné, c'était un album qui était sorti en 80, si ma mémoire est bonne, il est accompagné par un ancien de Genesis, c'était Phil Collins à la batterie, effectivement, et le titre, c'est Not One of Us. C'est très rock. C'est parti ?
C'est parti.
Ah ben c'est parti. We'll be right back. Voilà.
Bon, on remarquera une chose, c'est que la batterie est bien mise en évidence quand même.
Bien mise en évidence. Et c'était Phil Collins.
Et pour cause.
Effectivement, il commence à avoir quelques problèmes pour jouer, d'après ce que j'ai lu dernièrement. Beaucoup d'arthrose dans les doigts, mais ça, c'est un autre, malheureusement, un autre problème. On revient sur le continent. On fait Sterl en France. On va retrouver quelqu'un qu'on aime beaucoup dans le studio, Bernard Lavilliers, Les Mains d'Or. C'est une chanson. C'est une chanson que j'adore.
Ah ben, allons-y.
Soleil noir tourne sur la vallée, cheminée muette, portail verrouillé, wagons immobiles, tours abandonnées, plus de flammes oranges dans le ciel mouillé, on dirait la nuit de vieux châteaux forts, bouffés par les ronces, le gel et la mort, un grand vent glacial. Fais grincer les dents, monstre de métal qui va dérivant. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge et mains d'or. J'ai passé ma vie là, dans ce laminoir. Mes poumons en sang et mes colères noires. Horizon barré là, les soleils très rares. Comme une tranchée rouge saignée sur l'espoir. Dirait le soir, des navires de guerre, battus par les vagues, rongés par la mer, tombés sur le flanc, giflés des marées, vaincus par l'argent, les monstres d'acier. Voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or, travailler encore, acier rouge et main d'or. Je peux plus exister là, je peux plus habiter là. Je sers plus à rien, moi, y a plus rien à faire. Quand je fais plus rien, moi, je coûte moins cher que quand je travaillais, moi, d'après les experts. Je me tuais à produire pour gagner des clous. C'est moi qui délire ou qui deviens fou. Je peux plus exister là, je peux plus habiter là. Je sers plus à rien, moi, y a plus rien à faire. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge. Et main d'or, travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or, travailler encore, acier rouge, et main d'or, travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or.
On part pas en Suisse, on part en Hollande, on part à Maastricht. André Rieu était de Maastricht. Alain va nous faire une petite biographie.
Oui.
Si on ose un parallèle, André Rieu est un violoniste, effectivement. Il a eu beaucoup de succès dans les années 70-80 et j'oserais le parallèle avec Richard Klederman, qui lui était français et pianiste. Et depuis ces décennies-là, on entend un petit peu moins parler d'eux, mais ils ont eu un succès fou. On écoutera Plaisir d'amour, mais avant, Alain va nous faire un petit topo sur sa carrière.
Oui, on peut dire en passant qu'on m'aura rien épargné dans cette émission. Enfin, bref, André Rieu, issu d'une, il est d'origine néerlandaise. Il est né le 1er octobre 49 à Maastricht, donc on connaît bien. D'origine huguenote, encouragé par un père chef d'orchestre, il écoutera de la musique classique très jeune. Il étudiera au Conservatoire Royal de Belge, puis de Maastricht. Et puis, il poursuivra ses études au Conservatoire Royal de Bruxelles, où il sera l'élève d'André Gertier. Premier prix en 77, des débuts au Maastricht Salon Orchestra, et puis au John Strauss Orchestra en 87. En 2008, il décidera de construire une réplique, simplement une réplique du château de Schönbrunn, s'il vous plaît, grandeur nature, qui servira de décor scénique pour une tournée mondiale. En 2012, un album Magic of the Movies. En plus, il poursuit d'autres voies. Il devient chef d'entreprise. Au début des années 2000, il crée 13 sociétés, s'il vous plaît, avec 130 salariés. Il a notamment une boîte de production à Maastricht, donc aux Pays-Bas. Il possédera son propre studio d'enregistrement, c'est la moindre des choses. Il aura 2 jets privés, dont un Fokker, c'est aussi la moindre des choses, utilisé par des musiciens durant les tournées. Un orchestre qui ne bénéficiera d'aucune subvention. Des ventes cumulées de disques qui atteindront les 15 millions d'exemplaires, s'il vous plaît. 10% du marché français de la musique classique et 15% du chiffre d'affaires du label discographique. En 2012, la presse rapportera que le musicien a vendu 32 millions de disques. Durant les années 2000, le musicien donnera plus de 100 concerts par an. Il se produira un peu partout en Europe, aux States, au Japon, etc. Au Stade de France même, il aura prévu de jouer 2 soirs de suite, mais il n'en effectuera qu'une représentation en 2008. Avec seulement, entre guillemets, 28 000 places. On sait qu'il est peu estimé des critiques musicaux, notamment en raison d'un certain sentimentalisme musical, qualifié de classique populaire ou crossover dans les pays anglophones. Certains le considérant d'ailleurs comme un simple vulgarisateur de la musique classique aux arrangements un peu simplistes. Célèbre pour sa popularisation kitsch de la valse. Voilà, n'ayons pas peur des mots. Il interprétera des airs connus du répertoire, dont le boléro de Ravel, l'ode à la joie de Beethoven, réarrangé et raccourci, et puis des musiques de films comme Titanic ou Kamerade March, célèbre marche militaire allemande. Bref, un artiste un peu diversifié, quoi, et cosmopolite.
Un peu cosmopolite, un petit peu diversifié, un petit peu iconoclaste, et effectivement, bon, pas mal de ces mélodies ont fait le tour du monde. Je pense notamment à Plaisir d'amour, qui a été ce qu'on appelle un standard.
Et qu'on écoute.
Et qu'on écoute tout de suite. Thank you.
Bon, Michel voilà. se propose de poursuivre tout seul la chanson.
Voilà, on a fait un petit raccourci, effectivement, de plaisir d'amour. On va changer complètement de style. On va partir en Allemagne pour quelqu'un qui, effectivement, avait été découvert par David Bowie. Alain va nous en parler rapidement. Et qui a fait, ma foi, l'essentiel de sa carrière aux USA. Il s'agit de Klaus Nomi pour The Cold Song. Tu te sens en forme pour nous en dire deux mots?
Oui, monsieur.
Oui. Tout de suite ou maintenant?
Tout de suite maintenant.
Tout de suite
on
maintenant.
Peut en parler. On en parle?
Eh ben on en parle.
Il est né en 44 à Immenstadt, donc Klaus Nomi, nom de scène Klaus Perber. Il est mort en 83 à New York. Chanteur allemand, donc, icône de la scène New Wave et synth-pop du début des années 1980. En passant, c'est vrai qu'on a une programmation très éclectique. Hein. Bref. Il étonnera ses contemporains par une tessiture très étendue, une voix de baryton basse mêlée à celle de contre-ténor, une jeunesse à Berlin-Ouest, il se passionnera pour l'opéra mais aussi pour le rock. D'ailleurs, il racontera à ce propos avoir volé de l'argent à sa mère pour s'acheter un disque d'Elvis Presley. Il suivra des études de musique, notamment à la Deutsche Oper. Il se produira en public pour la première fois à Berne, en Suisse, dans Bastien de Mozart. En 72, il s'installera à New York où il fera la plonge, où il sera pâtissier pour gagner sa vie avec divers petits boulots, avec une évolution au sein de la scène artistique underground de l'East Village. Il se produira dans des cabarets et il sera repéré en fait par David Bowie, c'est le début de sa carrière, où il sera engagé comme choriste avec Joe Arias pour un passage à l'émission télévisée Saturday Night Live. Et puis en 1979, il admira le costume de Bowie pour cette émission, inspiré de Tristan Tzara. Il fera son fameux costume d'extraterrestre, une sorte de smoking en plastique, avec une coupe de cheveux très particulière, très anguleuse, des lèvres noires avec un visage très blanc. Et par la suite, il signera son premier contrat avec le label Hershey Records, et publiera deux albums de New Wave Synth Pop. Et puis, début 80, il dessinera son propre logo, une ombre noire indiquant sa silhouette qui apparaîtra sur tous ses albums. Il connaîtra un succès qui tiendra autant à son apparence physique un peu hors du commun qu'à sa façon de chanter l'opéra, avec notamment ce qu'on va écouter, The Cold Song, extrait du semi-opéra baroque King Arthur de Purcell. Un premier concert en France a lieu à Bordeaux en 81, il chantera aussi au Palace. À Paris, et puis très actif, et entre 80 et 82, il s'étoffera pour devenir une marque de fabrique charismatique, et puis avec une ambition qui se reflétera notamment à travers des compositions plus personnelles et l'utilisation d'un synthétiseur Fairlight. Il passera ses derniers jours à l'hôpital, où ses amis éviteront de lui rendre visite par déni et surtout par peur de contagion. Il faut dire qu'il est mort du sida. Un 6 août 1983, au terme d'une longue maladie, comme on dit, c'était en fait une des premières célébrités victimes du sida. Voilà, quelques mots de Klaus Nomi.
Et pour reparler de sa voix, je crois qu'il avait une voix qui était capable de couvrir 4 octaves. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme, ouais, mais on va pouvoir s'en apercevoir à travers, effectivement, The Cold Song.
On l'écoute. Thank you.
Voilà, alors, puisqu'on est parti dans l'éclectisme le plus total, Anna va nous présenter un joueur de flûte de pan. C'est pas si souvent qu'on en parle. Quelqu'un qui a eu une réputation internationale en son temps, Georgi Zamfir, il nous interprétera, et maintenant c'est une chanson qui avait été reprise par Gilbert Beco et Isabelle Aubray. Alors, Georgi Zamfir, interrogation
alors, de Berlin-Ouest à Bucarest, il n'y a qu'un pas. Donc Georgi Zamfir est né à Bucarest, effectivement, conservateur, et il a fait ses études à l'Académie de musique de Bucarest et au conservatoire où il sera l'élève de Fanica Luca. Il sera découvert par un ethnomusicologue, musicien et producteur suisse qui s'appelle Marcel Cellier, et qui, dans les années 60, a rédigé une étude approfondie sur cette musique traditionnelle roumaine. Alors, avec les bambous chinois les plus fins, il aura amélioré la flûte traditionnelle roumaine, c'est-à-dire le naï, de plusieurs morceaux. Il augmentera le nombre de tons, d'ailleurs. Il sera aussi l'auteur du manuel traité du naï roumain, la méthode de flûte de pan.
Ah non, le raï, je crois que c'est pas tout à fait la même chose.
Non, c'est encore un autre tropique. Il a ainsi fait découvrir au grand public sa flûte de pan. Il a contribué en grande partie à faire sortir de l'oubli ce très vieil instrument local. Et c'est grâce à un compositeur nommé Vladimir Kosma, qu'on connaît bien, que Zamfir a fait connaître au public francophone sa flûte de pan en 1972. Comme soliste dans une musique originale, celui-là on le connaît aussi, c'est le grand blond avec une chaussure noire, ça dira quelque chose à beaucoup de monde, accompagné du cymbalum, sorte de piano traditionnel roumain. Et au cours d'une carrière de près de 40, de plus de 50 ans, Zamfir aura collaboré à beaucoup de bandes originales, à part celle qu'on vient de citer d'Yves Robert. On peut parler de Picnic à Hanging Rock de Peter Weir. Il était une fois en Amérique du Nord, de Sergio Leone, ou encore le Berger solitaire dans Kill Bill de Quentin Tarantino, dans le Titanic ou encore dans le Grand Bleu. Il aura vendu des centaines de millions de disques partout dans le monde, avec plus de 185 albums enregistrés, un record qui, à ce jour, n'a été atteint par aucun artiste roumain. Et c'est le seul artiste européen à avoir d'ailleurs remporté deux disque d'or aux États-Unis, après s'être produit avec Céline Dion, Luciano Pavarotti, Tom Jones, Brian Griggs, Glenn Miller, Sting, Zucchero, Andrea Bocelli, Paula Scenic et beaucoup d'autres encore qu'on ne citera pas. Voilà.
Eh bien, pour tous ceux qui ne connaissent pas, c'est l'occasion de découvrir un très grand talent.
Et on l'écoute. Thank you.
pour terminer en beauté, on va partir en Russie.
Avec un chanteur allemand, contrairement à ce qu'on pense.
Il avait un look russe, un nom russe, Ivan Rebrov. Alors Ivan Rebrov,
en réalité, il s'appelait Hans Rolf Rippert. Donc Ivan Rebrov, comme il s'est appelé.
Il était polyglotte, hein,
il se voulait russe. Alors, en fait, il était d'origine allemande. Il dit qu'il avait lui aussi un registre vocal très très étendu, plus de 4 octaves, ce qu'il a fait d'ailleurs entrer dans le livre Guinness des records. Il chantait donc en allemand aussi bien qu'en russe, en français, en anglais, en afrikaans, en italien et en hébreu. Donc il s'est surtout connu pour ses apparitions à des émissions de télé, de variété, du temps de l'ORTF, entre les années 66 et 75, du même style que Demis Roussos à l'époque. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelques souvenirs. Il est né donc à Berlin, dans l'arrondissement de Spandau, de Paul Ripper, en 97, à Liebenwerda, dans le Brandenburg, et de Louise Fenske, née, elle, à Bamberg. Il est initié au violon et au chant sous l'impulsion de cette dernière. Elle et sa mère étaient grandes admiratrices de Fedor Chaliapin. Ado, il est soprano soliste avec de l'un de ses plus anciens chœurs de garçons d'Allemagne, le Staatsfinkische Chor de l'institution August Hermann Frank, dans la ville, dans une ville proche. Et pendant un court temps, il fait aussi partie de la Thomanertor, le chœur de garçons de l'église Saint-Nicolas de Leipzig, sous la direction du maître de chœur, organiste et compositeur Günther Ramin. Et plus tard, il sera soliste au chœur des Cosaques du Don, dirigé par Serge Ravov. Et puis, à partir de 51 et 59, il poursuivra ses études de chant, que le clavier et de violon à l'école supérieure de musique de Hambourg. Il sera également premier prix du 9e concours international de musique de l'ARD. Il fera ses débuts de musique classique donc à Francfort, et puis un premier rôle à l'opéra. Ensuite, on le connaît à travers le fameux violon sur le toit, où il jouera le rôle de Jupiter dans Orphée aux Enfers aussi. Et ils seront malencontreusement le tendon d'Achille sur scène. Victime un peu de son physique. Il sera particulièrement célèbre auprès du grand public pour son interprétation de chansons folkloriques russes, Kalinka, qu'on va écouter, Les Nuits de Moscou, Les Yeux Noirs, Plaine, Ma Plaine et Le Batelier de la Volga, et bien d'autres encore. On disait de lui qu'il était international, c'est lui qui disait qu'il se reconnaissait comme international, c'est-à-dire il disait que sa patrie c'était la Terre, et qu'avec son répertoire, il essayait de faire la connexion entre l'Est et l'Ouest. Un ancien chancelier.
On aurait besoin de lui alors en ce moment.
Oui, il y aurait du boulot en ce moment pour lui. Un ancien chancelier d'Allemagne fédérale, Helmut Schmidt, là, d'ailleurs, lui a remis à cette occasion la croix de l'ordre du mérite de la République fédérale d'Allemagne. Et au début de sa carrière, jusqu'à l'an 2000, il aura donné plus de 7200 concerts en soliste, aura réellement joué de nombreux opéras. Et puis, il a, en pleine forme, à 70 ans passés, il entamera une tournée en Australie et en Nouvelle-Zélande. Il était domicilié en fin de sa vie dans l'île grecque de Skopelos, dont il était citoyen d'honneur. Et puis, au moment d'effectuer une tournée de décembre 2007 en 2008, le chanteur est hospitalisé d'urgence à Vienne, où il mourra d'ailleurs d'un arrêt cardiaque, un peu plus tard, dans une autre clinique, à l'âge de 76 ans. Voilà.
Et pour l'anecdote, il était passé à Chalon, on devait être à la fin des années 90, je dirais bien en 98 ou 19, il avait chanté à Notre-Dame, mais j'avais eu le plaisir d'aller le voir. Kalinka, c'est parti.
On a le droit de danser, hein.
Débordé, mais j'espère que c'était.
On a encore beaucoup débordé, et surtout géographiquement d'ailleurs.
Oui, aussi. On se dit à très vite, à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Bonne semaine à toutes, bonne semaine à tous.
On fait comme ça.
Bonne semaine à l'un, soit en forme
bonne
pour
semaine.
La semaine prochaine.
On va essayer.
Bonne semaine.